Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de l'idolâtrie, un thème qui réapparaît tout au long de la Bible.
Nous y réfléchirons en compagnie de Jean-Marc et nous verrons à quel point ce thème, qui peut sembler à première vue démodé, est en fait très pertinent et d'actualité. Bonjour Jean-Marc et merci d'être de retour parmi nous.
Bonjour Yann et bonjour à tous.
Depuis quelques émissions, nous parlons de l'idolâtrie pratiquée lors de cérémonies occultes où les mauvais esprits y sont invoqués. Et nous savons que nous pouvons être libérés de l'emprise maléfique de ces idoles si nous nous tournons vers Jésus-Christ et demeurons en lui.
Aujourd'hui, nous allons changer de sujet en examinant pourquoi le fait de s'adonner à des désirs excessifs et malsains, comme par exemple l'amour pour l'argent, les biens matériels ou les rapports sexuels en dehors du mariage, peuvent être assimilés à l'idolâtrie.
Il est vrai que nous n'avons pas forcément l'habitude de parler de ces désirs en termes d'idolâtrie.
Et pourtant, la Bible en parle ainsi. Voilà pourquoi nous devons réfléchir sur le sens de ces propos.
Donnez-nous quelques citations bibliques à ce sujet.
Citons d'abord les paroles de Jésus trouvées dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 6, versets 19 à 24.
Ne vous amassez pas des richesses sur la terre, où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où il n'y a ni rouille, ni mythes qui rongent, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Nul ne peut être en même temps au service de deux maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent.
Citons à présent les paroles de l'apôtre Paul dans son épître aux Éphésiens, chapitre 5, verset 5.
Car, sachez-le bien, aucun homme qui se livre à l'inconduite, à l'impureté ou à la soif de posséder, qui est une idolâtrie, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu.
Ces textes évoquent donc la soif de posséder, la soif aussi de plaisir sexuel en dehors du mariage. Mais Paul en parle en termes d'idolâtrie. Expliquez-nous pourquoi.
Prenons deux définitions possibles de l'idolâtrie, une définition qui s'appuie sur l'enseignement de la Bible. Tout d'abord, l'idolâtrie consiste à prendre les bonnes choses que Dieu a créées et données aux hommes, pour les destiner à un mauvais usage, à un usage que le Seigneur n'approuve pas. Ensuite, l'idolâtrie consiste à accorder à ces choses créées par Dieu une place dans nos vies qui devrait pourtant être réservée au Seigneur Jésus seul. Prenons pour exemple l'argent et les biens. Ils sont nécessaires, ils améliorent la qualité de la vie, mais le désir de toujours en posséder plus peut nous dominer à un point tel que nous en arrivions à ne plus penser à Dieu. Si nous cherchons notre joie, notre satisfaction et notre épanouissement dans l'argent et non en l'Éternel, alors l'argent a pris la place qui revient au Seigneur, l'argent est devenu notre idole. Si nous faisons surtout confiance en nos biens pour résoudre nos problèmes au point que nous ne voyons plus la nécessité de nous confier en Dieu, alors l'argent a pris la place du Seigneur, il est devenu une idole. L'argent a son rôle dans la vie, mais il ne doit pas prendre la place qui revient à Dieu seul.
Et nous pouvons avoir un raisonnement similaire pour les rapports sexuels.
Tout à fait. Notre sexualité est une bonne chose. Elle a été créée par Dieu. Cependant, si nous laissons ces désirs dominer notre vie au point que nous franchissions toutes les limites établies par Dieu, alors nous destinons la sexualité à un mauvais usage et nous enlevons à Dieu la place qui lui revient. Si la jouissance lors de rapports sexuels devient notre seul objectif et notre raison d'être, alors nous vivons dans l'idolâtrie. Car connaître Jésus devrait être notre soif première. L'adorer et le servir devrait être notre désir le plus ardent.
Comment se fait-il que beaucoup tombent si facilement dans ces désirs excessifs et vains?
Ceux et celles qui ne connaissent pas Dieu vivent avec un vide à remplir. Mais au lieu de puiser leur joie et tout sentiment de bien-être en l'Éternel, ils cherchent ces sentiments ailleurs et poursuivent pour but ce qui ne pourra jamais les combler. De plus, le monde autour de nous exerce une énorme pression, car il veut nous faire croire que la jouissance de notre sexualité et la poursuite de l'argent nous satisferont. Les amis peuvent nous pousser dans ce sens. Les médias aussi propagent un tel message. Plongés dans une telle ambiance, la plupart des gens suivent le courant sans trop réfléchir. Ils finissent par se conformer au monde et ils manquent ainsi l'essentiel, une véritable connaissance de Dieu. Mais depuis l'origine, le diable a semé ses mensonges dans l'esprit de nos sociétés et de nos cultures afin d'éloigner les hommes de Dieu, son désir étant de les soumettre à la domination des idoles. Croire que l'argent ou les rapports sexuels peuvent remplacer Dieu, c'est se tromper, c'est tomber dans la pratique de l'idolâtrie.
Vous soulignez beaucoup la soif pour l'argent ou les rapports sexuels en dehors du mariage. Mais ce même principe s'applique-t-il à d'autres activités, d'autres centres d'intérêt ou d'autres types de conduite?
Oui, bien sûr. Les désirs excessifs pour l'argent, comme la pratique de l'immoralité, sont probablement les problèmes idolâtres les plus communs. C'est pour cette raison que la Bible en parle le plus. Toutefois, nous pouvons être animés d'un désir excessif et trompeur pour bien d'autres choses. Et si ces désirs deviennent plus importants que Dieu, s'ils jouent un rôle dans nos vies qui devraient revenir à Dieu seul, alors ils revêtent un caractère idolâtre. Ainsi, la pratique d'un sport ou d'un passe-temps peut devenir une idole. En soi, ces activités sont tout à fait bonnes. Mais si nous leur permettons de dominer notre vie et de prendre la place de Dieu, alors elles deviennent des idoles. De la même manière, le travail peut devenir une idole, ainsi que tout attachement excessif à un héros sportif, un chanteur ou même un acteur de cinéma.
Merci Jean-Marc, mais en dénonçant toutes ces choses comme étant de l'idolâtrie, ne risque-t-on pas de donner l'impression que Dieu agit en trouble fait?
Ce risque existe, effectivement, et c'est pourquoi je voudrais conclure en faisant deux remarques importantes. D'abord, je voudrais souligner que nous pouvons jouir de tout ce que Dieu a créé pour notre bien. Les problèmes commencent lorsque ces bonnes choses prennent trop de place dans notre vie ou y jouent un mauvais rôle. Ensuite, et plus importante encore, la Bible dénonce toute activité, toute pratique, tout attachement comme étant de l'idolâtrie lorsqu'il nous empêche de reconnaître que Dieu est notre trésor le plus précieux, qu'il est notre plus grand bien. Lorsque nous nous tournons vers des idoles, nous nous privons de Dieu. Et nous nous privons alors de ce qui existe de meilleur dans la vie. Cherchons donc notre joie et notre épanouissement auprès de Dieu, et non en ce qui finira toujours par nous décevoir un jour.
Et c'est sur ces précisions importantes que nous terminons notre discussion à présent. Mais Jean-Marc sera de retour la prochaine fois.
Merci Yann, et au revoir à tous.
Merci Jean-Marc pour vos enseignements clairs et instructifs. À présent, nous allons passer à notre courte méditation biblique.
Nous continuons notre série de méditations sur le fruit de l'esprit, basée sur un verset bien connu, trouvé dans la lettre de Paul aux Galates, chapitre 5, versets 22 et 23.
Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses.
Lors de ces dernières émissions, notre invité Patrick nous a fait part de ses réflexions sur les qualités qui forment le fruit de l'esprit. Et aujourd'hui, il va apporter d'autres remarques sur ce fruit si merveilleux. Bonjour Patrick.
Bonjour Hélène et bonjour à tous. Tout au long de cette série de méditations, nous avons démontré que ce fruit de l'esprit dépeint le caractère de Jésus-Christ. Un être humain empli de l'esprit, un homme animé, conduit par lui. Nous avons également affirmé qu'en tant que disciples de Jésus, nous devons aspirer à reproduire ce fruit dans notre propre vie. Or, voilà un objectif que l'Esprit de Dieu peut nous aider à atteindre. En fait, cette exhortation à reproduire le fruit de l'Esprit est un appel à ressembler à Jésus, un encouragement à marcher comme lui, car tout en respectant notre propre personnalité, l'Esprit nous refaçonne. Il nous recrée à l'image de Jésus-Christ. Mais comment l'Esprit accomplit-il cette œuvre dans nos vies? Un élément de réponse est apporté dans la deuxième lettre de Paul adressée à l'église de Corinthe, chapitre 3, verset 18. « En nous tous qui, le visage découvert, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. » Si nous nous approchons de Jésus et le contemplons, alors l'Esprit nous transforme à son image. Il nous fera grandir dans la foi. L'une des rôles de l'Esprit, d'ailleurs, est de nous conduire à Jésus et de nous aider à le connaître, de l'aimer, de nous révéler sa gloire et sa grandeur. L'Esprit ouvre nos yeux à l'amour de Jésus. Il ouvre nos oreilles afin que nous entendions ses paroles et nous les comprenions. Mais comment voir, comment entendre Jésus? Car il n'est plus là, avec nous, en chair et en os, comme il était avec ses disciples. Lire la Bible est tellement important, car en lisant la Bible, en écoutant ceux qui l'enseignent fidèlement, nous rencontrons Jésus. L'Esprit de Dieu se sert de la Bible comme d'une fenêtre pour nous permettre de voir Jésus, nous permettre de le connaître et d'être façonnés à son image. Aspirons-nous à ce que le fruit de l'Esprit abonde dans nos vies. Alors, tournons-nous vers Jésus, contemplons sa bonté, tout son amour pour nous. Contempler Jésus, c'est saisir toute occasion pour entendre parler de lui à l'église, à la radio. Contempler Jésus, c'est lire sa parole, la Bible, si l'on en dispose une. Contempler Jésus, c'est parler de lui à l'autre. Si Jésus demeure au centre de nos vies, alors nous lui ressemblerons toujours davantage. Et ce fruit de l'Esprit en nous se verra.
Merci Patrick pour ces belles exhortations. Vous serez de retour parmi nous lors de notre prochaine émission pour parler une dernière fois du fruit de l'Esprit.
En attendant, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.